Politique américaine, Vincent Gosselin.
Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, la radio de Toronto. Ici Guillaume Laurin. J'ai le plaisir de rejoindre maintenant au téléphone notre spécialiste de la politique américaine pour faire le point sur une actualité de la semaine, encore une fois, très dense. C'est Vincent Gosselin que je reçois maintenant. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Laurin.
Vous allez bien?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très bien, Vincent. On parle beaucoup de ce plan gigantesque de 1,9 trillion de dollars adopté par le Sénat. Est-ce que vous voulez revenir sur le vote?
Absolument. Donc, ce gros plan de 1900 milliards servant à la relance économique et à la gestion de la pandémie aux États-Unis, il a été adopté la semaine dernière par la Chambre des représentants. On en parlait. Il était allé au Sénat où on a apporté certains amendements et finalement, samedi, il a été adopté par le Sénat dans un vote à 50 contre 49, une très mince majorité, mais c'est après un marathon de 25 heures de débat et des amendements qui ont été apportés. Ça veut dire quand même que puisque la version est modifiée, la Chambre des représentants doit adopter de nouveau ce plan-là. Donc aujourd'hui, mercredi, on prévoit que la Chambre des représentants, à l'heure où on enregistre, bon, la Chambre est en train de débattre là-dessus, peut-être qu'au moment d'entendre la chronique, elle l'aura adopté. Et donc, lorsque les deux auront adopté le même plan, il faut que ce soit à la virgule près, eh bien, ça pourra se retrouver sur le bureau de Joe Biden pour qu'il puisse signer ce plan-là. On s'attend à ce que ça arrive d'ici la fin de la semaine.
Absolument, une grande avancée. On a beaucoup parlé de l'influence du sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin. Est-ce que vous voulez nous expliquer qui il est?
Absolument. Joe Manchin, sénateur démocrate de la Virginie-Occidentale, un modéré. Et avec la mince majorité là, démocrate au Sénat, ils ont toujours besoin de tout leur caucus pour qu'ils votent en bloc pour faire passer l'agenda législatif. On parle de nomination, on parle, bon, dans ce cas-ci, du plan de 1,9 trillion. Et donc, Joe Manchin est celui qui était un peu moins aligné avec le caucus concernant le plan de 1,9 trillion de dollars pour la pandémie. Et vendredi soir, les démocrates se sont entendus en caucus, se sont entendus avec M. Manchin particulièrement pour réduire la taille des chèques d'aide financière aux Américains. Donc au départ, on avait 400$ par semaine jusqu'au mois d'août. Joe Manchin a voulu aller à 300$ par semaine jusqu'au 6 septembre. On a conclu une entente, il a voté en faveur, ce qui a permis au plan d'être accepté. Et donc là, on voit quand même un certain phénomène où c'est Joe Manchin se retrouve en étant un des élus les plus puissants à Washington. On parle notamment de la nomination de Neera Tanden qui a finalement retiré sa candidature après que M. Manchin a dit qu'il ne votera pas en faveur de sa nomination. Et donc, ça montre l'influence qu'il a, du fait qu'il soit modéré, qu'il sorte des lignes de parti, d'où même avec Kristen Sinema, la démocrate de l'Arizona, deux modérés qui ont beaucoup d'importance en ce moment à Washington, parce que tous les démocrates ont besoin de leur vote. Donc, on préfère négocier avec le caucus avant d'aller négocier avec les républicains.
Absolument, Vincent. Alors, ce grand plan de secours américain, quelles sont les prochaines étapes de son adoption?
Aujourd'hui, mercredi, on s'attend à ce que la Chambre adopte le plan pour une deuxième fois, c'est la version modifiée du Sénat, et Joe Biden devrait le signer d'ici la fin de la semaine, et ça tombe à point parce que le 14 mars, c'est la date butoir où l'aide financière, l'assurance chômage des Américains pour la pandémie va cesser. Il y avait eu de l'aide financière dans les précédents plans d'aide, mais la date est à échéance le 14 mars, donc ça devrait arriver à temps pour que les Américains aient encore de l'aide financière. Et ça va, c'est dans ce contexte-là là, où Joe Biden a fait sa première grande victoire législative finalement, parce que c'est une promesse qu'il avait faite en campagne électorale, c'est en voie d'être réalisé, et donc une première grande victoire, c'est pas rien quand même, 1,9 trillion, c'est énorme.
Absolument. Et pourtant, Joe Biden avait promis d'agir très vite. On a vu que le plan a eu des difficultés à être adopté. Ça a pris un petit peu du temps. De plus en plus d'appels se font sentir pour renverser un phénomène au Sénat qu'on appelle le filibuster. Est-ce que vous vouliez nous expliquer de quoi il s'agit?
Absolument. Donc, le filibuster au Sénat, c'est une procédure parlementaire pour empêcher une mesure d'être votée au Sénat. Quand on pense à ça, quand on pense à l'obstruction parlementaire, on a souvent l'image du sénateur qui se lève en chambre et qui veut tout faire pour retarder le vote sur une mesure avec laquelle il n'est pas d'accord.
C'est bien ça.
Il peut Il se lève et il parle, il peut lire un livre de recettes, il peut raconter sa vie, peu importe. Tant qu'il n'est pas assis, il a la parole, c'est son droit de parlementaire et donc ça retarde les procédures du Sénat. Donc c'est l'image qu'on a souvent. Et pour renverser, pour que cette personne-là arrête de parler, ça prend 60 sénateurs sur 100, 60% du Sénat qui dit au président, on est suffisamment nombreux pour faire arrêter ce sénateur de parler. Et donc, ça sert à ça le filibuster et entre autres, ça oblige l'adoption de plusieurs mesures, de plusieurs lois à une majorité de 60 votes au Sénat. Ça permet aux partis minoritaires d'avoir une voix. Donc ça, c'est entre autres pour ça que c'est là. Et le plan de 1,9 trillion, celui-là a pu être adopté à une majorité simple. Je vous ai dit 50 pour, 49 contre.
Ouais.
Parce qu'on a utilisé la procédure de réconciliation. Ça peut être utilisé 3 fois par année seulement dans 3 cas qui touchent les dépenses, les revenus et la limite de la dette fédérale du gouvernement. Donc, 1 fois pour chaque critère dans une année. Donc, 3 procédures de réconciliation maximum. Et donc, quand on prend cette procédure-là qui permet à majorité simple d'adopter un budget, l'impact doit être seulement budgétaire. C'est pour ça que le salaire minimum est pas là-dedans. C'est parce que c'est pas une mesure qui ne touche que le budget des États-Unis. Donc ça va être probablement débattu ultérieurement. Certains laissent même croire qu'il y a la possibilité de s'entendre avec des républicains modérés pour hausser graduellement le salaire minimum. On verra bien.
Alors justement, certains sénateurs républicains annoncent également qu'ils ne vont pas se représenter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, absolument. On a entre autres appris la semaine dernière que Roy Blunt, qui est le républicain du Missouri, quand même 4e en importance à la Chambre, 4e du Parti républicain en termes de leadership, 71 ans, il est au Sénat depuis 2010. Avant, il avait été 14 ans à la Chambre. Et quand on compte toute sa carrière là au Sénat, dans son comté, puis dans son district électoral quand il était à la Chambre, ça fait 14 victoires électorales au total. Donc, c'est quand même une grosse carrière politique. Il a annoncé qu'il sera pas candidat en 2022. C'est le 5e à le faire dans le caucus républicain. Il y a des noms connus aussi comme Rob Portman de l'Ohio ou Pat Toomey de la Pennsylvanie. Il y en a 2 autres qui sont en réflexion aussi. Donc, peut-être qu'on pourra avoir 7 républicains qui ne se représenteront pas en 2022.
Alors, dans un genre différent, les autorités de santé publique américaines, le CDC, c'est-à-dire le Centers for Disease Control and Prevention, allègent ses recommandations sur les personnes vaccinées. Alors, quelles sont ces nouvelles recommandations, Vincent?
Oui, il faut dire qu'aux États-Unis, ça va très bien avec la vaccination. On est dans un autre monde complètement du Canada. 60 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est 18% de la population.
Ça va très vite.
31 millions ont reçu les 2 doses. C'est un peu moins de 10%. Et donc, c'est le CDC qui, la fin de semaine dernière, a publié un document qui offre de nouvelles recommandations pour les personnes qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Donc ça veut dire 2 semaines après avoir reçu les 2 doses ou 2 semaines après la seule dose, dans le cas du vaccin de Johnson & Johnson, par exemple. Les personnes vaccinées, là, ce qu'elles peuvent faire, c'est qu'elles peuvent faire un rassemblement intérieur, sans masque, sans distanciation, comme dans le bon vieux temps, finalement. Mais les personnes vaccinées peuvent aussi rencontrer des personnes à faible risque qui ne le sont pas, à l'intérieur, sans masque, sans distanciation. On donne l'exemple là, des grands-parents qui peuvent aller voir leurs petits-enfants qui ne sont pas vaccinés, mais qui sont pas à risque de la maladie, là, de complications du moins. Et donc, les vaccinés ont l'obligation, ont plus l'obligation maintenant de se faire tester ou de passer une quarantaine aux États-Unis s'ils n'ont pas de symptômes. Mais évidemment, le masque, la distanciation sont toujours requis dans les espaces publics. On n'est pas dans la même situation au Canada. On est à peine 4% de la population qui a reçu au moins une dose. Donc, aux États-Unis, ça va très bien, les vaccins. D'ailleurs, on annonçait que plusieurs doses du vaccin de Pfizer ont été acquises par le gouvernement américain. Donc, il faut vous dire aussi que les États-Unis produisent leur propre vaccin et ils n'en exportent pas avant que la population soit totalement vaccinée. Et c'est dans ce contexte-là que M. Biden va s'adresser à la nation jeudi soir à heure de grande écoute à la télévision pour souligner 1 an de pandémie, parce qu'il y a 1 an, les premières mesures de confinement étaient instaurées aux États-Unis aussi. C'était décentralisé, les États faisaient leur propre confinement, mais ça fait 1 an déjà et Joe Biden va s'adresser à la nation jeudi soir.
Voilà, 1 an de pandémie et l'espoir au bout du tunnel si l'on observe la situation américaine. Pour terminer, Vincent, très rapidement, quelques mots du procès du policier Derek Chauvin qui est accusé du meurtre de George Floyd qui doit débuter cette semaine.
Exactement. Cette semaine, à Minneapolis, au Minnesota, on est à l'étape de la sélection du jury. Là, le problème, c'est qu'il faut tenter de sélectionner des jurés impartiaux. Mais c'est difficile parce que qui n'a pas entendu parler abondamment de cette affaire-là? Qui n'a pas vu la vidéo du meurtre de George Floyd? Et donc, il faut tenter de trouver des personnes assez impartiales pour pouvoir donner un jugement juste et équilibré. Et donc là, c'est là où ça a été retardé un peu en raison d'un litige juridique. Peut-être un chef d'accusation de meurtre au troisième degré qui serait plus facile à prouver avec la vidéo selon une cour d'appel du Minnesota et plusieurs avocats. Et donc, actuellement, le portrait, c'est que Derek Chauvin, le policier, est accusé du meurtre au deuxième degré et d'homicide involontaire coupable de George Floyd. On verra bien, ça va commencer dans les prochains jours. Et pour la deuxième fois en moins d'un an, tous les yeux du monde vont être rivés vers le Minnesota.
Absolument, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans les semaines suivantes. Merci beaucoup, Vincent Gosselin, spécialiste de la politique américaine sur les ondes de Choc FM 105.1.